France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Surpris par la nuit, surpris par le monde. Beyrouth, une ville plus loin, par Anne-Sophie Vergne. Beyrouth, 1975-1990, la guerre au Liban aura duré 15 ans. C'est considérable, c'est très long, dans la vie des gens de Beyrouth. Aller en 2005 au Liban et poser le problème des disparus 20 ans après, c'est raconter la guerre, c'est écrire l'histoire.
بليز قصر العدل بصيدا قصر العدل
والله انا ما بعرفهم صراحه شيء ولا انا ما
Là, ici, Iman, vous venez pour quelque chose de précis, non ?
Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, je viens pour assister dans un procès pour supporter une amie et une membre de la comité des familles disparues contre les gens qui ont enlevé son mari il y a plus que 20 ans pendant la guerre au Liban. Et depuis ce jour-là, elle ne sait plus où est son mari,
وين الجامع؟
ايه
قالك جاي اتجاه صيدا
ايه
في قهوه مبين عليك
ايه
مع جنب لا وبتنزل
سوبري بار لا نوي
مبين ترجع العدل
بيروت اون فيل بلو لوان
La dame m'a dit c'est à l'entrée de Saïda, donc ça doit être là. Please, hon Asr al-Adel. Asr al-Adel. Hek, foot min hon. Merci. Ça y est. On est là.
On peut voir la dame.
On peut lui téléphoner. On va chez elle. On peut parler là-bas. Avec elle aussi.
La guerre a duré officiellement 15 ans au Liban. 2005, la paix s'est installée au Liban depuis 15 ans. Les adolescents et les enfants de la guerre ont aujourd'hui entre 20 et 45 ans. Comment ont-ils frayé leur chemin de la guerre à la paix ? Premier volet, les disparus. Raconter la guerre, écrire l'histoire. De nombreux Libanais, kidnappés pendant la guerre, ont disparu. 20 ans plus tard, les familles, incapables de faire leur deuil, luttent toujours pour que la lumière soit faite sur ces enlèvements. Des corps qu'on ne peut ensevelir faute de savoir où ils sont. Une guerre qu'on ne peut oublier faute de pouvoir la raconter au passé. Le problème des disparus fait symptôme. Symptôme dans une société dont la mémoire est encore trop à vif. Mémoire que certains ne désespèrent pas pourtant d'écrire. Madame Achichaud, nous nous trouvons à Saïda dans quel quartier ici ?
Saint-Joseph.
Que faisait votre mari et que faisiez-vous vous-même ? Vous travaillez ? Vous avez des enfants ?
Mon mari était enseignant.
Il
était professeur d'arabe. C'était un homme très calme et qui avait de très bonnes relations avec pratiquement tout le monde.
Et vous travailliez, vous, à l'époque ?
أنا كنت أشتغل ماتريس. ماتريس.
J'étais institutrice aussi. Institutrice d'école. Qu'est-ce qui s'est passé pour que votre mari soit enlevé? Pourquoi l'a-t-on enlevé?
لأن صار في حرب ويوم حطوا الانفجار للرئيس بير أشير جميل صار في ردات فعل يعني لأنه هو كان يتعاطى العمل الاجتماعي وال.
Alors c'était bon un temps de guerre et puis c'était à l'époque où on avait assassiné le président Bachir Jmaïl et il y a eu des réactions.
Qui est-ce qui contrôlait Saïda à l'époque?
Israël.
Les Israéliens.
Israël.
Est-ce que ce sont les Israéliens qui ont enlevé votre mari?
Non, c'est les Israéliens, Kouwat al-Libanais.
Non, ce ne sont pas les Israéliens, ce sont les forces libanaises.
Parce qu'il était musulman, c'est tout?
Non. مش بس لأنه مسلم لأنه كان عنده عمل اجتماعي يعني و...
Non, c'est pas parce qu'il était musulman seulement mais parce qu'il était impliqué dans des œuvres sociales.
كان يعني بكل القضايا الاجتماعية يعني حل مشاكل الناس وال... وكتير شغلات.
Il œuvrait à résoudre les problèmes des gens, travailler sur des conflits qui opposaient des gens.
تهدئة يعني تهدئة النفوس و... وضد العنف يعني وضد الحرب وهيك شغلات يعني و
travailler à calmer les esprits à faire libérer les gens quand il y avait des otages et puis il entretenait de bonnes relations avec le clergé et les instances religieuses musulmanes aussi
وكان بالحزب الشيوعي اللبناني
il faisait partie du parti de gauche
كان في خلاف يعني كان في خلاف بوجهات النظر بين
Il y avait des différends à l'époque entre les forces libanaises et les communistes.
Alors comment cela s'est-il produit?
Ici même, à la maison. Devant les quatre enfants et devant le voisinage. Ils ont encerclé la maison et ils l'ont pris.
Ils étaient
en habit militaire. Et un véhicule militaire. Et deux véhicules civils.
Et
une Peugeot blanche.
Et
une Fiat orange.
30 personnes.
30 personnes étaient là pratiquement.
C'était à quelle heure du jour ça? Ça se passait à quelle heure?
À 10h pratiquement le matin.
Comme aujourd'hui.
Oui.
هلا كان قاعد على هذا الفوتاي وعم يقرا كتاب وعم يشوف التلفزيون يعني يوم حادثة التفجير وعم يحطوا اخبار التفجير.
Il était assis dans le fauteuil, il était en train de feuilleter un livre et regarder les infos en même temps puisque c'était le lendemain de l'explosion.
De l'explosion de Balkan.
Qui a mis fin à la vie de Bachir Jmaïl, oui, tout à fait.
Anna Conte Adehon, Barra.
Elle était installée sur le canapé ici,
là,
dehors.
Dans le jardin.
Oui, dans le jardin.
مختلف يعني ان كان منع تجول يعني ما في حركه ممنوع
il y avait un cessez-le-feu donc normalement il ne devait pas y avoir d'activité elle a vu une activité fébrile militaire dans les parages
مرأ شخص لابس ثياب عسكريه من هون وحامل سلاحه.
Elle a vu un homme passer habillé en vêtements militaires et armé. Pour s'assurer que son mari était encore à la maison, donc il surveillait les parages. Ils ont encerclé la région, puis la maison elle-même et sont rentrés. Ils l'ont interrogé sur son identité et il a répondu. Ils lui ont demandé d'aller avec lui.
Avec eux.
Il a demandé l'autorisation de s'habiller puisqu'il était en pyjama. Il a été accompagné par un homme armé à l'intérieur de la chambre pour s'habiller. Alors quand ils sont arrivés ici, ils lui ont dit « n'appelle surtout personne ». Ne pleure pas. Son aîné a voulu se diriger vers la porte et on lui a demandé de rentrer.
C'est tout.
Est-ce que votre mari s'attendait à ce que ça puisse arriver?
Oui.
Oui, ils s'y attendaient.
Est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous avez reconnu des hommes parmi les forces libanaises ?
Il y a des visages et des noms qu'elle connaissait.
Ziad Alaouani, votre père a disparu pendant la guerre.
Oui, mon père a disparu pendant la guerre. Mon père était engagé politiquement, donc il avait ses activités politiques et plutôt de gauche. Après l'invasion israélienne en 82, après l'assassinat de Bachir Jmeil et le massacre de Sabra et Shatila, on a été visité par, à l'époque, les services de renseignement de l'armée libanaise. Et sous le prétexte d'une investigation pour un accident de voiture, ils ont intervenu, puis ils l'ont pris de la maison. Et depuis, aucune nouvelle, quoi. Donc ça fait maintenant quand même 22 ans.
Comment a réagi votre mère par rapport à la disparition de son mari, de votre père ?
La réaction, elle était progressive aussi. Assez normal, puis elle commençait à prendre plus d'ampleur et grandir pour finir avec la création du comité des parents de disparus et créer une action plus au niveau national qui continue d'ailleurs jusqu'à présent avec des objectifs différents parce qu'avec ce laps de temps et les circonstances, il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc maintenant, forcément, on ne peut plus vraiment avoir comme but ou comme objectif de demander de retrouver les disparus. Mais par contre, maintenant, ils peuvent plus demander à savoir le sort des gens, ils sont où partis, comment, qui, machin. Et puis aussi, essayer de créer une journée de commémoration nationale, un monument de commémoration, une place pour ces gens-là, parce que quand même, ce phénomène concerne beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens de toutes les communautés, de toutes les origines. Il y a des Palestiniens, des Libanais. Enfin, voilà quoi, c'est la progression normale des choses.
Et à quel moment en fait les familles chrétiennes et musulmanes ont commencé à unir leurs efforts à l'intérieur de l'association ? Comment s'est fait ce mélange des deux pôles, j'allais dire ?
Devant une certaine misère ou un certain problème. Les gens forcément se retrouvent. Le comité s'est créé en 82. Après, je ne sais plus, 4 ou 5 mois après la disparition de mon père. Et c'était tout à fait par hasard. C'était dû à... Après les efforts de ma mère de contacter les officiels et puis... Et puis à un moment, elle s'est rendue compte peut-être qu'il y a d'autres gens ayant la même cause, donc c'était peut-être mieux d'essayer de les regrouper. Donc par l'intermédiaire d'un message à la radio, elle s'est retrouvée avec une centaine de personnes. Il y avait des chrétiens, des musulmans, de tout quoi. Et il y a eu des actions assez connues aussi à l'époque, entre la clôture de toutes les lignes de démarcation. Par le comité, ils avaient fait une grande action, brûler les roues, ils laissaient personne passer et tout. Pour... Enfin, s'ils le faisaient maintenant, on aurait dit il y a des terroristes, des femmes terroristes qui bloquent la route.
Donc l'association a été fondée juste pendant la guerre en fait.
Jamaïe Assestoua Belharab.
Oui, Nawat Manin.
En 82, ouais. Il y a eu beaucoup d'enlèvements pendant la guerre.
Saïda,
même, il y a 10 cas d'enlèvements.
Mais
on ne sait pas qui est responsable de ces enlèvements. Ils ont intenté un procès, ce qui a rassemblé des gens qui étaient impliqués dans les mêmes causes. Et puis, bon, ils ont fait des manifestations, des sit-ins. Nous prenions des risques et on se déplaçait à la recherche de gens qui avaient le même problème que nous.
Aujourd'hui, nous sommes en 2004. Vous avez intenté un procès au kidnappeur de votre mari. Comment cela a-t-il été possible ?
أنا رفعت دعوة بال 1991.
J'ai intenté le procès en
1991.
À l'époque, il n'y avait pas de gouvernement en place et puis il y a eu une loi d'amnistie.
Mon
avocat, M. Nermé Gemma, donc, travaille sur le procès. Et comme on connaît certaines des personnes qui sont venues ici, on continue d'œuvrer. Les ravisseurs considèrent qu'ils sont protégés par la loi d'amnistie. Et comme il n'y a pas eu de cadavre et qu'on ne l'a jamais retrouvé, ils pensent que quand même on pourra poursuivre les travaux.
Vous avez bon espoir que votre demande aboutisse ?
Je ne sais pas. Si le gouvernement le veut bien, si l'État le veut bien, je pense qu'ils trouveront une solution. Mais comme il y a beaucoup de rapts de part et d'autre et de différents partis politiques, je n'ai pas l'impression que le gouvernement a envie de fouiner là-dedans. Je voudrais savoir où est son corps, s'il a été liquidé. Ils ont découvert une fosse commune dans les parages. Ils ont voulu effectuer des tests d'ADN pour pouvoir identifier les personnes. On n'a pas encore des résultats. Tout à fait, les ossements étaient en très très mauvais état, donc pour l'instant il n'y a toujours pas de résultats. Le seul moyen de faire la lumière sur une affaire comme ça, c'est que les gens avouent leurs crimes, qu'ils en parlent, parce que bon, il y a eu des Israéliens ont même libéré des prisonniers. Aujourd'hui, le seul moyen d'avoir la moindre vérité sur ce sujet-là, c'est qu'en fait les personnes avouent.
Le pire serait que les kidnappeurs ne soient pas condamnés.
Mais Elm Shaoul,
si elle perd son procès, c'est qu'elle a perdu aussi. Elle a re-kidnappé son mari. Une cour libanaise, à mon avis, est incapable de statuer dans ça. Elle est absolument incapable de revenir aux faits, de démontrer dans quelles circonstances il a été kidnappé. Et en l'absence d'un État et d'une police, que signifie un kidnapping ? On revient à la loi de l'otage. C'est une pratique qui se fait en Irak maintenant et qui s'était faite au Liban, qui s'est faite en Afghanistan. Ça veut dire on revient, dès que l'État disparaît, on revient, redevient au tribalisme et au clanisme. Et kidnapper signifie qu'il faut avoir quelque chose en échange. Donc, après la reconstitution d'un État de droit, est-il possible de revenir sur l'état de non-droit ? C'est ça, c'est un problème très important. Pendant la guerre, on est redevenu dans une situation tribale ou clanique, dans laquelle le kidnapping avait un rôle très précis. À moins, et ça c'est le kidnapping apparent, cache en fait un massacre. La volonté de liquider une personne physiquement. On dit kidnapping et en fait c'est un meurtre. Moi personnellement, franchement, je ne vois pas comment on peut gérer ce dossier d'une manière qui ne réaboutisse pas à des pratiques de violence. Donc il faut trouver un acte qui soit symbolique et national pour avancer dans le traitement de ce dossier. Vous savez, les Américains ont ce système de faire d'énormes stèles sur lesquelles ils écrivent des noms. Il y a un mur de 2 kilomètres à Washington sur lequel sont inscrits tous les morts du Vietnam, y compris les Vietnamiens du Sud. Il faut donc faire un acte de dire les noms d'abord des gens disparus, kidnappés, de dire qui ils sont, voilà, une liste avec les familles, et de décider que ces gens sont un symbole de quelque chose qui puisse jouer dans l'unité nationale.
Et à quoi pourrait ressembler, Mehel Shaul, ce monument aux morts ? Vous pensez qu'il pourrait être sur la ligne de démarcation à Beyrouth, par exemple ?
Il n'y a plus de ligne de démarcation. Il ne faut pas faire revivre ce concept. Il n'y a pas de ligne de démarcation. Alors, sinon, les gens qui sont sur cette ligne sont dans des tranchées. Non, il faut voir un espace central qui ne serait pas une ligne, qui serait une agora, une enceinte, un espace public, pas une ligne.
Mehel Shaul, pour ce travail de mémoire, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait aller voir les archives. Mais y a-t-il des archives encore ?
L'un.
Qui les rassemble ?
Personne. Malheureusement, personne. Il y a des archives dans les partis, il y a des archives dans... Il y a les archives officielles, et il y a les archives des gouvernements. Je pense aux archives de l'ex-Union soviétique qui ont eu beaucoup d'interventions au Liban et qui savent très bien beaucoup de choses. Il y a les archives de certains pays arabes comme la Libye ou l'Égypte, évidemment la Syrie. On n'a pas encore ni l'accès aux archives ni la version palestinienne de cette guerre. Les Palestiniens, eux, on a parlé d'eux, mais eux n'ont pas fait leur version de la guerre du Liban. C'est ça ce que j'appelle les archives.
Chaou, je crois qu'on vous a demandé, il y a de ça quelques années, de faire un travail. Est-ce que vous pourriez nous décrire le contenu de ce travail et le but de ce travail ?
Oui. En fait, il y a une décade à peu près, une dizaine d'années, il y a eu tout un grand chantier de remise en question, ou plutôt de réélaboration de tous les programmes scolaires. Parce qu'ils étaient, pour la plupart... depuis 1943, depuis l'indépendance. On a fait des petites corrections dans les années 60, mais après la cessation des hostilités en 1990-1991, il y a eu un grand chantier appuyé par l'UNESCO, appuyé par les instances internationales, la Banque mondiale, pour refaire et remettre à jour et moderniser l'ensemble des programmes scolaires au Liban. En fait, moi, personnellement, j'étais dans la commission, mais parallèlement, on a vu que tout est faisable, sauf pour écrire l'histoire d'un pays qui vient de sortir de la guerre. Il fallait tout refaire. Il fallait réinventer une méthode, une approche pour faire ce qu'on appelle l'histoire, le récit d'un pays qui était en conflit et qui vient de sortir d'un conflit. Est-ce qu'il y a un seul récit ? Est-ce qu'il faut se contenter de donner les grands traits ? Est-ce qu'il faut fuir vers le socio-économique et mettre en arrière-plan le politique et le militaire, la violence, etc. Et en fin de compte, ils ont mis en place une énorme chronologie factuelle de ce qui s'est passé au Liban entre 75 et 90. En fait, c'est ça le trou. L'histoire du Liban est à peu près connue, enseignée. Il y a un tronc commun à toutes les catégories sociales et communautaires pour faire l'histoire du 17e siècle jusqu'à l'indépendance et un peu plus tard. Il y a les lignes directrices générales pour écrire quelque chose. Mais de 1975, date fétiche du déclenchement du conflit au Liban, jusqu'en 91, c'est encore tellement conflictuel. On n'a pas élucidé tous les événements. Il y a des dossiers en suspens, surtout les dossiers à caractère humain comme, évidemment et malheureusement, les massacres. Qui a fait quoi où? Il y a le dossier des enlèvements. Il y a le dossier de responsabilité à caractère humain. Et tout ça, c'est pas élucidé. Comment on peut? Il est très difficile d'écrire l'histoire, une histoire dans ce domaine. Mais je dois dire aussi que dans ce débat, il a fallu aussi rouvrir les thèmes sur lesquels on semblait être d'accord, comme par exemple les grands conflits du 19e siècle. Quelquefois, le débat sur l'histoire se passe comme un conseil des ministres. Ça veut dire que les représentants de toutes les communautés sont réunis au centre de recherche pédagogique et ils parlent en termes « nous et eux », »,« nous et vous ». Dans ce chapitre, dans ce paragraphe, vous ne parlez pas de cette communauté et pourtant elle était là, elle a fait ceci et cela. Et, voyez, et dans ce chapitre, vous dites que les choses se sont passées comme ça, nous nous opposons, ce n'est pas notre version, ça ne s'est pas passé comme ça. Le débat est... Et au premier degré, la conception de l'histoire du Liban a été fondée sur ce postulat qui a fait le consensus, indépendamment du fait si c'est vrai ou faux, c'est que les Libanais sont, entre guillemets, naturellement préparés à vivre ensemble. Et quand il y a des conflits, c'est l'intervention étrangère qui fait le conflit. Ce soit l'Empire ottoman, les puissances coloniales, jusqu'aux Palestiniens de 75-90 et Syriens, qui, en intervenant, ont exacerbé les conflits. Ça, si vous voulez, c'est le cadre argumentaire général de poser les conflits. Et justement, quand on débattait, il faut dire, et l'aspect interne, et c'est là où vous brisez un consensus qui est presque séculaire dans l'écriture de l'histoire. Mais ce qu'on a appris aussi, c'est que la nature d'un régime politique, la nature du système politique qui peut naître après un conflit détermine la manière d'écrire l'histoire. Donc, après des conflits internes, il était plutôt clair qui a gagné le pouvoir, la politique et qui a dominé la société. Et c'est ce gagnant-là qui a écrit l'histoire. Comme au Liban, il n'y a pas eu, suite au conflit, un groupe qui peut dire, et qui a une légitimité pour dire, j'ai gagné. Comment? Donc, il faut écrire une histoire à l'image du pays qui est reconstruit après. Et c'est là le problème, c'est, peut-on faire une histoire consensuelle? Comment la faire? Il faut l'inventer. Sinon, il y aura toujours des histoires.
Vous écoutez Radio Liban.
ممنون كثير.
محمد رمضان اللي عم يحكي.
نعم اهلا.
فيك. في عنا شخص اسمه عبد روحانا.
نعم.
بنية العذرية.
نعم.
بمطمعة جندر.
نعم.
يعني بدخولهم بفوتة كراس سعد.
نعم.
بالعذرية وبفوتوا مع وجههم على طول وبيصرخوا هنيك برد عليهم. قلوا من امبارح عشية مقفلين عليه وقاعد تحت.
مين
عمره 70 سنة وعنده 76.
طيب عرفت.
الله يطول عمرك.
طيب عرفت.
الله يخليك ويطول عمرك.
الو.
الو.
نعم.
مين عم يحكي؟
عبد الرحمن.
نعم.
عبد الرحمن.
وين عم تحكي انت؟
انا من المطبعة.
Qu'est-ce que nous écoutons là, Nadine Touma? Qu'est-ce qui se passe à la radio?
C'est au fait un des appels que Sharif Al-Akhawi avait reçu pendant la guerre. Il avait un programme qui s'appelait Selke Emni. Au fait, c'était un programme auquel les gens appelaient pour voir s'ils pouvaient traverser une route, s'ils avaient un problème d'eau, d'électricité, de bombardement, quelqu'un qui était blessé, il n'arrivait pas à atteindre la Croix-Rouge ou quelqu'un d'autre. Et donc là, il a eu un appel d'un monsieur qui lui dit que, au fait, à côté de chez eux, il y a un monsieur de 70 ans qui travaille dans une imprimerie, qui a été oublié et qui est enfermé à l'intérieur à cause des bombardements. Et donc ça fait 2 jours qu'ils ne viennent pas, les gens ne viennent pas pour ouvrir l'imprimerie, et il est coincé à l'intérieur. Et bon, Sharif Al-Akhawi prend le numéro de l'imprimerie et appelle. Donc on a entendu un petit bout aussi du deuxième appel où il lui demande c'est qui. Il lui dit c'est Abdou Rouhana, donc il lui dit son nom. Et donc voilà. Pour mes parents, lui, c'est quelqu'un, c'est comme une icône au fait, pour beaucoup de gens. Vous dites son nom, tout de suite ils disent Selke Emni.
Selke Emni, qu'est-ce que ça veut dire?
Selke, ça veut dire qu'on peut traverser. Emni, ça veut dire qu'elle est sûre ou en sécurité. Et au fait, il parlait des routes.
Et comment pouvait-il savoir tout ça? C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui appelaient pour donner l'information?
Pour lui, il y avait plusieurs mécanismes. De un, il était en contact direct avec l'armée et avec quelques personnes, des miliciens qui se combattaient. Il était dans sa petite voiture avec son ingénieur de son, allait traverser plusieurs endroits dans la région pour voir comment était la situation. Et des gens, au fait, qui voulaient l'aider, qui ne croyaient pas en cette guerre qui appelait. Et voilà.
Les jeunes se repèrent-ils aujourd'hui par rapport à ce proche passé?
Comme ils sont socialisés dès leur plus jeune âge dans leur famille, donc ils posent des questions et ils reçoivent des réponses de leurs parents. Dès qu'ils entendent un mot ou une allusion, ou qu'ils savent dans leur région, ils passent dans un endroit, tout de suite les parents disent « ça c'était bloqué, ça c'était fermé ». On n'arrivait pas à passer par là, on passait par ailleurs. Ça, c'est la maison de X qui est détruite, etc. Donc, ils ont une mémoire, une première mémoire, qui est faite dans les questions-réponses qui se font dans les familles. Évidemment, on ne parlera pas d'objectivité ici. C'est une mémoire extrêmement... singulière, spécifique, qui peut réunir une famille, un conglomérat de familles, un village, un quartier et une région. Ça peut se faire à ce niveau. Parce qu'après la famille, viennent les amis. Il y a l'école. L'école existe au Liban. C'est un des lieux les plus importants de la socialisation. Donc là aussi, s'introduit le discours du professeur. Des professeurs qui, en classe, peuvent dire ceci, cela, etc. Ce qui est bon, c'est qu'il y a pas mal d'écoles maintenant qui sont dans une situation de mixité interconfessionnelle. La plupart des écoles privées, donc cette tranche de la population que je qualifie en catégorie supérieure de classe moyenne et la classe supérieure, va avoir plusieurs versions des histoires de la guerre en venant à la maison et dire « J'ai un ami qui a vécu à Beyrouth X, Est ou Ouest, ça dépend, et qui dit que ceci s'est passé comme ça et pas comme ça, etc. » Donc, ce sont les paliers de la mémorisation informelle, mais extrêmement importante. C'est ça, au Liban, vous pouvez rencontrer ça dans beaucoup de secteurs. C'est que la société fait son œuvre, fait son boulot avec les moyens qu'elle a. Ceci devrait être le pendant d'un travail au niveau étatique qui, lui, ne suit pas. Pour des raisons, beaucoup de sociologues vous le diront, que cette société domine l'État. Et que c'est pas parce que l'État est incapable, mais c'est qu'on l'empêche de faire son boulot. On préfère que l'État ne fasse pas son boulot.
On qui ?
Où ?
Qui on ?
Ce que j'appelle les tenants du forme de pouvoir dans les différentes communautés. Pouvoir politique, social, intellectuel, idéologique, etc.
Chez ces jeunes, il y a aussi parfois le silence à la maison. Et parfois, le silence, ça doit recouvrir des choses peut-être que les parents n'ont pas envie de dévoiler. Il y a certainement aussi des parents qui ont été des miliciens, qui ont été des gens impliqués. Comment ça se passe pour cela ? C'est certainement plus difficile de faire ce travail de mémoire, de constituer une mémoire de sauvetage.
Là, il n'y a pas une solution immédiate. C'est une implication totale de la famille et du milieu dans une option qui a été faite par quelqu'un qu'on ne dénigrera pas. Comme il n'y a pas le critère de qui a fait juste, qui a fait faux, il n'y a pas le critère d'une vraie histoire et d'une fausse, d'un faux engagement. Et comme la tendance dans la société libanaise est de dire ou bien tout le monde a raison, ou bien tout le monde a tort, ou bien tout le monde a gagné, ou bien tout le monde a perdu, il n'y aura pas des accusations de la part du groupe. Surtout que cette personne est déjà en accusation de la part de l'autre groupe. Donc, on ne va pas trahir ou bien décider d'avoir des boucs émissaires de ce genre. Donc, le silence. C'est un peu le silence qui existe beaucoup dans l'histoire paysanne, si vous voulez. Les sociétés un peu fermées, un peu closes, pratique la politique du trou de mémoire à la place d'un remplissage d'un élément déstabilisateur pour elle-même. Ils vont dire, ça maintenant on n'en parle pas. Votre X, père, cousin, frère, voisin, proche parent, a fait son devoir, il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est engagé, on a souffert comme lui, il a souffert avec nous. Mais ça, c'est des groupes, je dis tout de suite, fortement impliqués. C'est des acteurs de premier degré. C'est les acteurs de premier degré. Moi, ce que je propose dans ce cas, et ce qu'il faut faire, mais peu le feront, c'est d'amener la personne concernée ou les proches de rédiger soit les mémoires, soit une biographie de cette personne qui, plus tard, aidera à effectuer un travail de mémoire.
كنا قاعدين تحت اللفابو هلا قمنا من ربع ساعة
نعم
هيئتنا رح نرجع
نعم
عبالك سجلك شغنية اوف يا ابو الزلو
ايه والله فكرك فاضي هي ايه
شو
يلا ايه مستعد
تعي هدى مستعد حرام بدنا نروق لك اعصابك
الله يحفظك
نحن شفقانين عليك
الله يحفظك
وحياتك
ايه
Nadine Thomas, qu'est-ce qu'on vient d'écouter là maintenant ? C'est une jeune femme ?
Au fait, elle a un sens de l'humour assez fort, donc elle appelle, elle lui dit « Ouf, c'était assez fort », lui dit « Oui, c'était très fort, on vient même d'entendre des obus là tout de suite à côté de nous ». Oui, moi je suis à Ashrafieh, on vient de passer toute la soirée dans la salle de bain, on était entre la douche et sous le robinet, etc. Toute la matinée, pardon. Elle lui dit, mais j'ai envie d'aller à la plage. Est-ce que tu peux me dire quelle route est celle qui est menée ? Il dit, mais écoute, qu'est-ce que tu racontes, les bombardements, tu vas aller à la plage ? Je lui dis, oui, j'ai envie d'aller à la plage. Puis elle lui dit, est-ce que tu as envie d'écouter ma sœur ? Elle a une belle voix, peut-être elle pourra chanter, comme ça les gens se sentiront bien. Et donc elle dit aussi une phrase à laquelle lui croyait tout le temps, c'est qu'au fait, il n'y a pas de division entre chrétiens et musulmans. Lui est chiite. La plupart des gens qu'il appelait étaient de toutes les religions possibles et imaginaires. Même des gens pas du tout religieux ou bien pas du tout croyants. Donc elle lui dit, tu sais, peut-être avec une chanson qui a rapport avec notre patrimoine, on pourra amener les gens ensemble de nouveau. Et donc voilà.
Qu'est-ce que vous recherchiez, vous, Nadine Touma, à travers cette écoute ?
Pour moi, déjà, le fait de... C'est comme si c'était des morceaux à mettre l'un dans l'autre, vous voyez. Donc, même si on a vécu notre propre réalité de la guerre, le fait de vivre la réalité des gens, pas la réalité des politiciens, mais le fait d'entendre quelqu'un comme ce qu'on vient d'écouter maintenant, qui appelle, qui dit « il y a un monsieur dans une imprimerie », le fait d'écouter une femme qui lui dit « il y a un feu, on n'arrive pas à l'éteindre », le fait d'écouter quelqu'un qui lui dit que ça fait au moins un mois qu'on n'a pas ramassé les ordures, ça, non, des choses vraiment dans le chaque jour, dans le quotidien, des gens qui ne veulent pas que cette guerre continue, qu'on n'a pas pu les entendre pendant la guerre.
Quand vous avez écouté ces bandes-là, certainement à 2 ans, vous n'aviez pas vraiment de sensation de la guerre, mais est-ce que ça vous a rappelé des épisodes de la guerre que vous avez vécues plus grandes ?
Absolument, et d'une façon très intense. C'est pour ça que je vous disais, quand tu écoutes ces choses-là, et c'est des choses qui font partie du quotidien, tout de suite tu te rappelles des moments où tu te cachais, des moments où tu n'avais pas assez d'eau, des moments où tu ne savais pas, tu voulais faire pipi, tu pouvais pas aller à la salle de bain, des moments où vraiment chacun d'entre nous, sa radio avec lui, tu ne la quittais pas, ça faisait partie de ton corps à peu près, des moments où tu voyais ta mère se cacher dans un armoire, tout revient, tout retourne. Et surtout quand il y a toutes ces voix, quand il y a quelque chose de très beau dans la radio. Parce que quand on ne met pas d'image, c'est comme si... Et c'est pour ça que j'étais encore plus émue que des images, parce que je pouvais mettre mes images. Donc en écoutant quelqu'un d'autre, je pouvais mettre mes propres histoires, ma propre mémoire, mes propres pleurs, mes propres peurs. Donc voilà.
Chérif Lakhawit. الله يسلمك في عم بتعرفنوا لنا وزارة المالية هلا قال طول انت
بتحبي تاكلي جاتو كثير كيف لما تاكلي جاتو شو بيصير فيك شو بتقولي لي
بقول لك اعملي
لا وقت تاكلي كثير اذا جبنا كثير شو بتقولي لي
مال شاول vous vous souvenez des émissions de Sharif El Haraoui
je me souviens très bien c'était un personnage à la radio officielle Radio Liban qui justement a voulu intégrer la radio officielle, ou plutôt l'adapter à une situation conflictuelle qui est totalement en contradiction avec le statut même de cette radio consensuelle, qui a une forme de langue qu'on peut dire un discours épuré, langue de bois un peu. Et donc, avec les conflits, cette radio ne pouvait plus fonctionner sur cette base consensuelle. Et qu'a fait Sharif El-Akhaoui ? Il a vraiment brisé le consensus, mais pas en prenant position entre les belligérants, en se disant « je suis au service du public, des citoyens ». Il a pu amorcer lui-même, seul peut-être, un passage de l'officiel au public. Et comme l'État qui finance cette radio a commencé à couler, il était clair que cette radio allait disparaître. Et dès 77-78, il y a eu la naissance des radios privées, illégaux, mais privées, fondées par les milices.
Mais en fait, l'histoire des télévisions, puisqu'il y a des télévisions qui sont nées après la guerre, c'est la même histoire que la radio. C'est-à-dire que c'est des télévisions qui appartenaient aux grands seigneurs de la guerre, à Nabi Berri, par exemple, à d'autres.
Oui, c'est, On ne peut pas nier le fait que les télévisions privées au Liban sont nées dans la guerre et financées par l'argent de la guerre. Mais moi, je crois qu'ils connaissent les lois du marché, les lois de la concurrence. Il y a des grands professionnels qui ont pu opérer une conversion de la guerre. Et quand on dit guerre, discours identitaire, donc une télé pour un groupe précis, à la télé commerciale est absolument ouverte, donc qui s'adresse à nous. Donc ouverture vers le marché et vers ce qu'on appelle la culture générale, les différents points de vue, etc.
انت شو اسمك يا شاطرة؟
ساندرا.
ساندرا شو؟
ساندرا سلامي.
انت ساندرا سلامي؟ طيب وين عم بتقضي يومك؟
هون بحملايا.
حملايا؟
وبكفاية.
وبكفاية. طيب بتحبي حملايا أكتر ولا بكفاية؟
اثنيناتهم قد بعض.
قد بعض. اشتقتي لبيروت؟
كتير.
طيب وليش ما بتنزلي على بيروت؟
لأنه حالي ما أنا رايقة.
وهلا إذا رايقة بدك تنزلي مش هيك؟
إيه.
ساندرا؟ شو بتحبي تقول لرفقاتك ببيروت؟
Ce que Chalif Lahraoui aussi faisait pendant la guerre, parce que comme moi, comme ma famille, beaucoup d'autres familles se sont déplacées à cause de la guerre. Donc aller à une région qui est plutôt plus en sécurité. Et c'était plutôt vers les montagnes. Et donc il demande à la petite fille, on est où là? Elle lui dit, on est à Bikfaïa. On est entre deux régions, Himlaï et Bikfaïa. Il lui dit, donc, toi tu es d'où? De Beyrouth. Pourquoi tu ne descends pas à Beyrouth? Je ne peux pas descendre à Beyrouth parce que il y a la guerre, il y a les bombardements. Et ça te manque? Oui, beaucoup. Et puis elle lui lit un petit poème. Elle dit, quand je te vois, mon cœur s'ouvre. Quand tu es loin de mes yeux, mon cœur se referme. Il lui dit, à qui tu adresses ce poème? Elle lui dit, à mon grand-père. Où est-il? Il est à Beyrouth, je n'arrive pas à le voir. Bien que, au fait, la distance entre Bikfaïa et Beyrouth est d'à peine 20 minutes. Et mais c'est une éternité des distances qui vraiment vraisemblablement ont l'air d'être énormes. Donc voilà, la petite fille.
Radio Liban. Radio Liban.
On ne peut faire la paix qu'en marquant les endroits dans lesquels il y a eu la guerre. Ce n'est pas uniquement... Parce qu'il y a tellement de traités de paix qui sont signés et les gens toujours ont un conflit énorme en eux, sentent toujours beaucoup de fureur, beaucoup d'anxiété. Et je pense que c'est vraiment en créant un lien avec cet espace, mais un lien qui émane d'un endroit aussi qui est vrai pour nous et réel pour nous. Ce n'est pas ni en refaisant des immeubles beaux, ni en détruisant et reconstruisant de nouvelles choses qu'on va au fait faire la paix avec un endroit. Pour moi, je n'aime pas me voir uniquement à travers la guerre. Et ce n'est pas parce que je refuse cette guerre ou bien parce que je veux l'oublier, parce que j'en ai marre et tout le monde... C'est parce qu'en tant que personne, je n'aime pas être dans une case. Pour moi... Il y a beaucoup d'autres choses qui me définissent. Comme beaucoup de jeunes, j'ai eu l'opportunité et la chance aussi d'étudier aux États-Unis. J'ai quitté en 90 pour faire mes études là-bas. Mais je pense que le fait de retourner est un choix. Et le fait de vivre les choses comme un changement continu et de penser que je peux, si je ne peux pas contrôler la grande politique, au moins je peux contrôler la petite politique des choses. Ça veut dire comment... Ça commence de comment je conduis, comment je parle aux gens, comment je travaille. Le fait de savoir qu'en tant qu'artiste, on n'a pas une base culturelle, mais pour moi, c'est une chance inouïe d'avoir ça, parce que ça veut dire que je peux imprégner cet espace de ce que j'ai envie de voir dans cet espace, pas uniquement subir ce que les autres avaient construit. Mais au fait, on travaille plutôt en tant qu'individu, on ne travaille pas beaucoup en tant que mouvement. Mais pour moi... Il y a beaucoup de gens qui survivent au Liban. Moi, je veux vivre.
احنا كنا لازم نجي يلا ما مثل بعضها
لازم نجي مثل ما انا ما بعرف الطريق
انا عم قلبي كلها تعرف عم تعمل هذا عمل الله كتب علي هيك بيو ما طولش
في تربه
هون ايه الشهداء
بس مش انت مش رايحه على الشهداء
لا انا على الشهداء تحت هاي الشيعة ربعنا
انت ليش وين
سنة تحت شتيلة
ابنك سنة
ايه
انت شيعية
انا شيعية ايه
وعم بدك توقفي انا بفكر انك تنزلي معه
ايه
جي بروبوز كو فو ديسوندي افيك ال جي ترو جي شيرش
ا بدنا نترك على البوابه
ايه البوابه وين
هي هي البوابه
سيمتي
سي وي سيمتي يوم
Où sommes-nous ici?
Nous sommes dans le cimetière des martyrs à Chatila. Et c'est le matin de premier jour de Eid, de Fitr, où les musulmans viennent saluer leurs morts. Ils amènent des fleurs, comme vous avez vu, des fleurs et des
rameaux?
De
l'encens?
De sang. Et ils pleurent sur ces morts. Mais nous sommes avec Mohamed. Mohamed, elle a perdu son mari l'année 98, mais deux années avant, elle a perdu, pas tout à fait perdu, son fils a été disparu. Et jusqu'à maintenant, elle ne sait rien, sur le destin de son fils. Et quand elle vient là chaque année, elle vient pour demander à son mari si elle sait, si elle a des nouvelles sur son fils. Il reconstruit une relation avec la mort en demandant si son fils est vivant ou pas. C'est ça.
Allah salmi khalili bouledek.
Khalili alhamel ibni. Khalili alhamel ourah bayi. Khalili alhamel ya Allah. Ya Allah. يلا وين بدي فيش غن يا امي يا امي ولادي ابي خلص امي لك يا امي يا احمد يا امي نقول لها حرقتي يا امي
Est-ce que toutes les femmes qui ont eu des disparus dans leur famille s'adressent à leur mort ou est-ce que
oui,
c'est exceptionnel?
Elle vient chaque année. Non, elle vient chaque année.
Elle et seulement.
Non.
Toutes les femmes.
Les femmes viennent, mais Mohamed, elle. Elle amène la photo avec elle, elle le porte sur la cimetière.
Le pose sur la tombe.
Sur la tombe. Elle est plus expressive que.
Elle pleure.
Elle est plus expressive. Elle dit ces choses, pas seulement pleurer.
Imad et Medan, maintenant nous sommes chez Hamad, voilà, au cinquième étage d'un immeuble dans un quartier sud.
Asfair, c'est à Beyrouth, sud de Beyrouth.
Elle a toujours réagi comme ça? Quand est-ce qu'elle a commencé à parler au portrait? Tout de suite ou...
Toujours, oui, toujours. toujours. Ça devient. C'est une partie de partie très essentielle de sa vie, de ses quotidiens, de sa vie quotidienne. Elle est toujours là, son fils, elle est toujours là. Elle ne peut pas le voir, mais elle est là.
Elle a d'autres enfants. Combien de fils et de filles a-t-elle?
D'autres, il y a 5 fils et 2 filles.
Comment réagissent-ils, eux, par rapport à l'attitude de leur mère vis-à-vis de
ils
fils
sont fatigués, disparus? Ils sont fatigués. Peut-être ils sont plus logiques d'elle. C'est elle, la maman. Peut-être ils disent que ça va. Pas ça va, mais il faut accepter la réalité qu'il est mort. Mais elle, elle ne peut pas. Il faut une preuve de son mort. Et ce que l'État ne fait rien pour aider des familles comme Mohamed, de trouver une preuve.
لحتى ياخذوا يعملنا تسريح. كان عندي بنت طفله عمرها شي 4-5 اشهر، وكان في ابني. اولادي هوديك وديتهم شوي شوي، يعني مش كلهم مع بعضهم، شوي شوي وديتهم. ضليتني انا وابني احمد وبنتي امل. امل كان عمرها صغير يعني شي 4-5 اشهر. وقفنا على الاشرفيه بشارع ساسين، نزل الشوفير بده يجيب لنا تسريح.
C'était l'année 1976. J'ai habité à Naba'a. C'est un quartier chiite, mais dans l'est de Beyrouth, donc parmi les chrétiens. Et les phalangistes, ils voulaient se débarrasser des musulmans qui habitent à Naba'a. Et elle a essayé de sauver son fils. Les membres de sa famille ont venu là, mais ça reste seulement une petite fille qui avait 5 mois et son fils qui avait 16 ans. Elle a pris un taxi pour traverser Beyrouth, de Beyrouth Est jusqu'à Beyrouth Ouest, et à Sassin, c'est une place à Chafiyé. Il y avait un barrage des phalangistes et ils ont arrêté la voiture. Le chauffeur était un Arménien. C'était facile pour les Arméniens de traverser Beyrouth. Elle travaillait comme des chauffeurs de taxi. Le barrage a arrêté la voiture et elle a demandé à mon fils de descendre. Trois hommes en tenue militaire ont venu approcher la voiture et ils ont amené mon fils. Et j'ai attendu dans la voiture 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, mais mon fils ne revient plus. Quand je demandais aux gens, aux hommes militaires, où est mon fils, l'un de ces trois m'a
frappé
avec son fusil. Et il a donné un ordre au chauffeur de continuer la route. Et depuis ce moment, je n'ai pas vu mon fils. Je suis arrivée à Beyrouth Ouest. Il y avait les forces arabes, il y avait l'armée yéménite dans le temps. Je dis aux gens là-bas qu'ils ont enlevé mon fils, et j'ai visité tous les politiciens, les gens responsables. Même j'ai contacté des chrétiens que je connais très bien pour m'aider à trouver mon fils. Et le lendemain, je suis allée à Sassin et je disais à Monsieur Maurice Jmaïl qui a essayé de m'aider que mon fils est là, mais les gens qui étaient là-bas ont dit non, il n'y a personne là. Et depuis ce temps, mon fils est disparu.
ساعتها صرخت قلت لهم هذا ابني خلص ابني اسير باسرائيل هذا ابني ما في قول يعني هذا ابني شو وحده ما بتعرف ولدها هذا ابني بس من هون مبين هلا في كانوا معي هذا شو اسمه عادل البرجي بتعرفي لعادل عادل بيعرفوا لابني قلت له يا عادل شوف لي احمد وين
طلع هيك اللي في ماجازين شو كنت دير شبيغل ماجازين الموند qui a publié une photo des prisonniers
Libanais qui ont été transférés en Israël. L'année 1990, la guerre est terminée au Liban. Et il y avait encore des prisonniers dans chaque camp. Et les phalangistes, les forces libanaises ont donné leurs prisonniers à Israël. Et sur photo, il y avait beaucoup de prisonniers. Et elle était prise au port de Jouni. Avant qu'on quitte dans le bateau pour aller à Chypre, puis en Israël. Et elle dit, dans ce photo, j'ai vu mon fils. Il n'y avait que le visage. Je vis seulement le visage et les yeux. Et je sais bien les yeux de mon fils. Donc, mon fils était transféré en Israël. Je suis sûre qu'il va venir. Toujours, chaque jour, je dis qu'il va revenir. Quelquefois, quand je suis au lit, j'imagine qu'il est sur la porte et je vais aller ouvrir la porte pour lui. Et j'attends toujours, il va revenir. Toujours, il vient dans nos rêves. Même, il vient dans les rêves de ma fille qui était très petite quand elle était disparue. On le voit chaque nuit. Elle est toujours dans notre rêve.
Lokman Slim, où sommes-nous ici?
En fait, nous sommes précisément à Hartahrek. C'est, disons, le bastion de Hezbollah. Dans le temps, c'était connu pour être le lieu où les otages étaient, disons, abrités, étaient cachés. C'est à l'extérieur, administrativement, c'est à l'extérieur de Beyrouth. Géopolitiquement, c'est à Beyrouth, parce qu'on est à quelques kilomètres de Beyrouth. Et donc, en même temps, nous sommes dans un lieu totalement excentré, mais au cœur, disons, des événements. Je suis né dans cette maison et j'ai grandi dans cette maison et dans ce quartier. Bon, ma famille, c'est une famille en même temps assez compliquée, mais tout à fait exemplaire de ce pays. Ou de cette région, je ne dois pas parler de pays. Mon père est chiite, ma mère est protestante, née au Caire, donc elle a émigré dans ce pays, mais tout en ayant des grands-parents qui viennent du Liban. Donc je viens d'une part d'une famille extrêmement mixte, mais extrêmement éclatée, parce que chacun de mes parents avait ses termes de référence et c'était salutaire pour moi parce que leur modus vivendi impliquait que personne n'essaye d'imposer ni sa culture ni son éducation.
En 1975, quel âge avez-vous alors?
J'avais 13 ans, environ 13 ans, mais la guerre pour moi, avait commencé depuis des années avant. C'est-à-dire même, cette guerre-là, je l'avais vécue dans mon cœur. Déjà en 1973, quand il y a eu les premiers accrochages entre l'armée libanaise et les camps palestiniens, j'ai reçu la balle d'un sniper. Donc la guerre, les armes, tout ça ne m'était pas étranger. La guerre du Liban, il faut tout le temps la prendre au pluriel, et vraiment un pluriel, je dirais, cancéreux. Moi, je ne sais pas quand est-ce que cette guerre a commencé, et je ne suis pas sûr que cette guerre est vraiment finie. Et la guerre des gens de ce pays a quelque chose de cancéreux, c'est que jamais les lignes de front n'ont été stables. jamais les belligérants n'ont été les mêmes, jamais les adversités ne se sont définies une fois pour toutes. Et dans ce sens, c'était, disons, une guerre totalement, je dirais, une guerre en état d'ébriété. Et dans ce sens-là, elle était incontrôlable. Et dans ce sens-là, elle se reproduisait parfois à l'insu de ses auteurs. Aujourd'hui, bien sûr, les armes se sont tues, mais à la faveur de quoi? En fait, à la faveur d'une sorte de cesser le feu, je dis bien pas plus, qui peut prendre fin à n'importe quel moment. Et pour être encore plus cynique, je dirais que si la guerre du Liban a pris fin, c'est à défaut de sponsors, parce que la guerre, quand même, ça coûte cher. Je ne sais pas si, malheureusement, on n'a pas pu mener notre guerre jusqu'à complétude, s'il faut regretter que la guerre s'est terminée trop tôt ou s'il faut s'en féliciter. Certains, disons, qui, au moment du déclenchement de la guerre, n'avaient ni 20 ans, ni 8 ans, disons, ceux qui étaient en même temps les plus fragiles, disons, vraiment les adolescents de la guerre. Certains d'entre eux ont découvert le pays à la faveur de la continuation de cette guerre. Parce que la guerre était en train de remettre en cause, dans la mesure où cette guerre se poursuivait, elle mettait en cause toutes les idéologies et les idées qui avaient cours. Et arriver à une certaine nudité, c'est l'appartenance à ce pays qui réémergeait. Et bon, bien sûr, chacun a choisi son pays, ou bien ne l'a pas choisi. Donc il s'agissait vraiment de deux tendances en même temps contradictoires, mais je dirais tout à fait caractéristiques de ce pays. Ou bien le quitter, pour de bon, pour beaucoup de gens, ou bien insister à y revenir et à y rester de façon irrationnelle, sans raison.
Lokman Slim, vous étiez un de ces adolescents qui a grandi avec la guerre, qui n'avait pas 8 ans, qui n'avait pas 20 ans. Est-ce qu'il y a une conscience politique particulière qui est née de cette expérience-là, à cet âge si précoce et en même temps si fragile?
C'est-à-dire que la guerre, c'était une sorte de circonstance de jeunesse. Et c'est tout. On découvrait notre sexualité, on découvrait une d'autres formes de sociabilité. Et bon, la politique était là comme alibi. L'engagement politique, c'était une forme de sociabilité. Je dirais qu'à propos de ma propre expérience, que bon, j'étais engagé dans un parti de gauche. Très vite, pour moi, j'ai découvert que je n'étais pas fait pour faire le métier des armes, parce que j'ai tout de suite, ou très tôt, découvert la compétition qu'il pouvait avoir même au sein de ces structures hiérarchiques. Bon, c'était un grand jeu.
C'était un grand jeu, cette guerre, pour les adolescents. Est-ce que le goût des armes aussi fait partie de ce jeu de la guerre qu'on joue à cet âge-là? Parce que, après
ah,
tout...
Oui, ça, il me semble, c'est une évidence, surtout dans une sorte de culture qui associe armes et virilité. Donc, un adolescent plus une arme plus un zeste de folie ou de courage égalait l'admission dans le cercle des adultes et donc avoir voix au chapitre. Et donc c'était la voix, disons, royale pour ne pas attendre l'âge adulte pour participer à plein de choses.
guerre du Liban n'a pas eu d'effet ni de
Samir Kassir
ni de conséquences dans l'idéologie du quotidien. Elle en a eu en revanche au niveau de la culture politique et peut-être de la culture de la violence. C'est quand même pendant la guerre du Liban généraliser des usages aussi civilisés que la prise d'otages et que la voiture suicide. Donc quelque part, oui, la guerre du Liban a été une répétition de ce qu'on voit aujourd'hui en Irak en particulier. Mais ce qu'on voit en Irak, c'est à l'échelle plus 10, hein, puisque les otages étrangers au Liban se comptaient sur les doigts de la main, finalement. Ça a été un laboratoire de ce point de vue, un laboratoire de la violence, comme ça avait été un laboratoire de modernité avant, et comme j'espère que ça redeviendra un laboratoire de modernité. Vous savez, au Liban, nous avons un problème politique immédiat qui, lui, obstruit l'avenir, si vous voulez, c'est cette hégémonie du régime syrien, du régime bassiste syrien, sur le Liban et sur la Syrie. Hein. Là, moi, je parle sans aucun chauvinisme. Comme la plupart des Libanais, j'ai moi-même une part d'ascendance syrienne. Donc, c'est pas du tout un problème de chauvinisme, c'est plus un problème d'étouffement. Le régime au pouvoir à Damas, qui est totalement archaïque et qui est inefficace en plus, bloque les nécessaires mutations et freine vraiment le dynamisme qu'on trouve dans la société libanaise, comme il a freiné et d'une certaine manière comme il a liquidé le dynamisme de la société syrienne.
Y a-t-il eu des conséquences de la guerre sur la conscience libanaise qui soient particulièrement visibles aujourd'hui ?
Oui, je crois qu'après la guerre, il y a quand même une conséquence positive, c'est que je pense que la plupart des... même à la limite tous les Libanais, une écrasante majorité des Libanais, n'ont plus de problème de définition de leur appartenance. C'est-à-dire qu'ils se savent maintenant tous Libanais, et qu'ils ne veulent pas remettre en question l'existence d'un État libanais. Bon, ça, c'est un acquis positif. Alors, comment le faire? Et là, les choses deviennent un peu plus compliquées. Quels sont les moyens, si vous voulez, pour d'exprimer pour chacun son appartenance? Ça devient plus problématique. Mais encore une fois, on peut pas. Il n'y a pas eu de test grandeur nature parce qu'il y a une confiscation de la politique.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une confiscation de la mémoire en même temps ?
Il n'y a pas eu de véritable travail de mémoire. Bon, il y a eu des initiatives isolées. Nous avons fondé une association il y a quelques années qui a essayé d'organiser un colloque, une journée d'études, de poser des questions, d'associer des jeunes qui n'ont pas vécu la guerre à des témoins de la guerre. Chaque 13 avril, comme ça, une petite manifestation de souvenirs. Elle n'est pas du tout massive. Mais je pense que le vrai problème, c'est que le pouvoir politique n'a pas incité à ce travail de mémoire. Et pour cause, parce qu'ils ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de travail de mémoire.
Lokman Slim, Sabra et Shatila sont loin d'ici ?
Non, on est à environ 1,5 km, 2 km de Sabra et Shatila. Et bien sûr, si cet événement m'a beaucoup intéressé au point d'avoir participé à un documentaire concernant cet événement, c'est parce que je l'ai vécu sans prendre la mesure de ce qui se passait au moment où je vivais l'événement. Je m'explique. Disons, les journées du 16, 17 et 18 septembre, j'étais à Hartehrek, là où nous sommes maintenant. Bon, juste à côté de nous, il se passait quelque chose d'exceptionnel. En même temps, on avait, disons, une certaine facilité à assimiler ce qui se passait à ce qu'on a déjà vu. Avec Sabra et Shatila, à un niveau très personnel, j'ai compris combien j'ai banalisé la violence durant toutes les années précédentes. Cet intérêt particulier que j'ai porté à cet événement, c'était une sorte d'autocritique, de la banalisation à laquelle j'ai participé, même passivement, en ne prenant pas au sérieux qu'une mort d'homme, qu'il s'agisse d'un homme ou de beaucoup d'hommes, est quelque chose de grave.
Est-ce que c'est cela, Lokman Slim, qui vous a conduit à faire ce travail autour des miliciens, enfin autour des gens qui ont participé à ce massacre de Sabra et Shatila?
Donc, disons qu'il y a d'une part cet événement ponctuel, particulier, qui est le massacre de Sabra et de Shatila, mais en même temps, il y a l'autre grande problématique. Le gouvernement, le Parlement libanais a voté en 1991 une loi d'amnistie qui englobe presque tous les forfaits qui ont été commis au cours de la guerre. Ce qui signifiait que, bon, maintenant, il n'y a plus rien. Vous êtes, vous, Libanais, obligés à oublier. C'était en fait en même temps une loi d'amnistie, mais qui imposait une certaine amnésie. Cette loi d'amnistie, elle a abouti à blanchir les princes, ce qu'on appelait les princes de la guerre. Et non seulement à les blanchir, mais à en faire la nouvelle élite du pays. Bon, on reprend. Je dirais que Sabra et Shatila étaient plus qu'un exemple, parce qu'elle impliquait, d'une part, les auteurs de ce massacre, bon, qui appartenaient d'une part à des milices dites chrétiennes, elle impliquait les Israéliens. Mais Sabra et Shatila, c'est une autre guerre qui continue d'être cachée. C'est la guerre des camps que la milice chiite Amal a continué de mener contre ces mêmes camps dans les années 84-85. Une guerre de laquelle on ne parle pas. Donc, travailler sur le cas Sabra et Shatila, c'était, disons, essayer de rouvrir plein de dossiers à la fois.
Iman et Medan, comment avez-vous trouvé le film de Lokman et de Monica Slim sur les miliciens? Est-ce que d'un point de vue politique, ce film a une importance aussi, Iman et Medan?
Bien sûr, parce que on n'a jamais entendu les bourreaux parler. C'est toujours, c'est toujours nous, les gens qui ont vécu la guerre, qui ont témoigné la guerre, mais qui n'ont pas fait la guerre. Et il y a les victimes, mais les gens qui ont fait la guerre, ils sont devenus des hommes politiques. Et ils ne parlent pas de la guerre. C'est interdit de parler de la guerre. C'est interdit de se souvenir. Et tout d'un coup, je viens et j'entends tous ces gens qui ont fait le massacre. Et plus de Sabra et Shatila, plus que ça, ils ont fait le massacre seuls. Personne n'était arrêté là-bas pour témoigner. Et c'est eux-mêmes, il n'y a que eux même de dire la vérité, qu'est-ce qui passait là-bas. Et c'est l'importance. Et à la fin, il faut dire les choses. Et je pensais aux familles des disparus en voyant ce film, en regardant ce film. Parce qu'ils ont parlé de 16 et 17 septembre, la nuit et le bon matin où ils ont assassiné tous les gens là-bas. Et je connais des femmes, des mères qui ont perdu leurs enfants, qui ont jusqu'à maintenant, elles sont à la recherche de leurs enfants, en croyant que leurs enfants sont toujours vivants. Et je pensais à eux en regardant ce film, parce que je suis sûre que leurs enfants, bien sûr, ils ont été liquidés, mais les mères ne savent pas ça. Et dans ce sens, le film aussi a une valeur très important dans le travail de familles de disparus.
Et pourtant, il ne s'agit pas du tout de familles palestiniennes.
Pas nécessairement des familles palestiniennes, parce qu'il y avait aussi des Libanais là-bas. Et le film n'a pas parlé des Libanais. Il manque. Moi, je trouvais qu'il fallait parler des Libanais qui étaient dans le camp, qui vécu dans le camp avec les Palestiniens. Beaucoup de gens, beaucoup de familles qui ont venu du sud du Liban, bien de Bikar, des Shia, des Chiites. Mais on sait pas qu'est-ce qu'il arrive à ces familles.
On a mené une enquête pour trouver des personnes ayant participé manuellement à la tuerie. Une fois les avoir interviewés, je dirais entre guillemets amicalement, on est arrivé vraiment à retrouver certains éléments qui manquaient au puzzle. Je dirais, entre autres, ou l'un des éléments les plus importants, à mon avis, c'est qu'on est arrivé à prouver le caractère institutionnel de ce massacre. Je veux dire que les groupes qui appartenaient aux forces libanaises et qui ont mené ce massacre n'étaient pas juste des têtes brûlées, n'étaient pas des gens qui agissaient de leur propre chef ou sous les ordres de chefs abrutis par la mort de Bachir Jmeil, mais que les troupes, et là je dis bien les troupes qui ont opéré à Sabra et Shatila, appartenaient au corps même des forces libanaises et avaient reçu des ordres très clairs et étaient soutenus logistiquement, bien sûr, par les Israéliens, ce qui est connu. En gros, je dirais que le massacre de Sabra et Shatila, vu du côté des auteurs, c'était beaucoup plus une opération militaire qu'un massacre. Et quand on parle d'opération militaire, on parle de planification, on parle d'un calcul de faisabilité et on parle de but politique à atteindre.
Lokman Slim, est-ce que cette relecture de l'histoire de la guerre ou des guerres du Liban va pouvoir parvenir jusqu'à la place publique?
Je ne crois pas que les Libanais, en général, qu'ils soient politisés ou non politisés, aimeraient revenir sur cette histoire. C'est un travail qu'ils doivent mener contre eux-mêmes. Si les Libanais commencent à faire cet exercice, je ne vois pas pourquoi les Syriens, leurs voisins syriens, qui ont subi des choses tout aussi atroces, ne le feraient pas. Je ne vois pas pourquoi leurs voisins irakiens ne le feraient pas. Donc, je crois que vraiment, ne pas toucher à la mémoire est une clause sécuritaire, fait partie du dogme sécuritaire des régimes sous lesquels on vit. Et notre projet consiste à essayer de collecter autant que possible de documents écrits ou non écrits et essayer de consigner de façon audio ou mieux de façon audiovisuelle les témoignages, surtout de certains auteurs de cette guerre. Et quand je parle d'auteurs, je pense surtout, disons, aux auteurs des basses tâches et pas aux politiciens qui sont rodés à la parole, et parfois la parole est synonyme de mensonge.
Iman et Medan, est-ce que vous pensez que votre travail d'écriture romanesque est une continuation de votre travail universitaire consistant à recueillir les témoignages de femmes ou de mères de disparus?
C'est tout à fait le contraire. C'est mon travail avec les femmes, les mères de disparus, c'est une continuation de mon travail romanesque. Parce que je commençais à écrire des romans avant que je sois retournée à l'université.
Vous êtes très proche de Madame Achichaud, par exemple. Vous avez tenu à assister à son procès. Pourquoi?
Parce que quand je travaille sur le problème des mères des disparus, mais ils sont devenus mes amis. Et je ne peux pas travailler que comme ça. C'est très dur de travailler comme les sociologues d'autrefois, avec un détachement. Et je dois être au procès de Madame Hachichou et je dois visiter une autre mère la veille de Noël, parce que c'est aussi l'anniversaire de sa fille qui était disparue.
Parfois, je me demande ce qui vous pousse, pourquoi vous avez ce courage de continuer à entendre ces récits de souffrance.
Peut-être parce que je me sens coupable, je ne sais pas. Peut-être parce que je suis encore vivante. Peut-être parce que je n'ai pas perdu ni un fils, ni un frère, ni un père. Peut-être parce que je suis comme ça. Je me trouve dans des... Quand je fais des choses qui sont... Qui donnent un sens à ma vie. Je ne sais pas.
J'imagine pas que dans 20 ans, ça va être le pays de Cocagne qu'on retrouve dans les catalogues touristiques. Il me semble que ce qui est fantastique dans ce pays-là, c'est que c'est une sorte de création continue des Libanais. Qu'on n'est jamais sûr que ce pays existe. Qu'on doit tous les matins ou tous les soirs le réinventer. Il me semble que dans 20 ans, ça ne va pas vraiment changer, qu'il y aura peut-être d'autres qui viendront le réinventer avec d'autres idées. Et bon, j'espère que leurs idées seront bien meilleures que les nôtres.
C'était Beyrouth, une ville plus loin. Premier volet, les disparus. Raconter la guerre, écrire l'histoire. Avec Iman et Medan,
Najet Achicho, Nadine Touma, Ziad Alawani, Khadija Herbaoui, Lokman Slim, Samir Kassir et Mehelm Shaoul. Prise de son, Didier Sudre. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Une émission d'Anne-Sophie Vergne, réalisée par Anne Fleury. Demain, deuxième volet, Fragments de ville.
Surpris par la nuit, Beyrouth, une ville plus loin, par Anne-Sophie Vergne. Première diffusion le 21 janvier 2005 sur France Culture.